Ce soir, on va commencer d'entrer en philosophie première, ce qu'on a appelé métaphysique. J'aime mieux, dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte philosophique d'aujourd'hui, parler de philosophie première. C'est une question de nom. Heidegger a dit et qu'il voulait parler d'une ontologie fondamentale. Ce n'est pas du tout à cause de Heidegger que je dis ça. C'est partie de la philosophie. Tandis que le nom de métaphysique, par les bibliothécaires, tout simplement, après la physique, il y a encore quelque chose d'important et de très important. Donc on l'appelait métaphysique, après la physique. De fait, selon l'usage du mot, aujourd'hui, surtout avec les Arabes, avec Albert le Grand, avec Thomas d'Aquin, donc si je suis un deuxiste qui reste fixé sur les mots, je dirais métaphysique. Si au contraire, je veux essayer de comprendre l'esprit profond de Thomas d'Aquin, je reviens à la source. Saint Thomas nous demande tout le temps de revenir à la source. Parce que le mot métaphysique a pris des significations tellement multiples et tellement diverses et tellement lointaines d'Aristote. Wolf. La métaphysique de Wolf est très loin de celle d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Et c'est celle-là que regarde Heidegger. Et c'est celle-là qu'il attaque. Et là, il a raison. Alors, je ne vais pas entrer dans cette attaque, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il vaut mieux aujourd'hui parler de philosophie première. Mais bien qu'on ait dit introduction à la métaphysique, pour que tout le monde comprenne, on pourrait mettre en dessous introduction à la philosophie première. Première dans le sens où elle est la plus importante. Vous savez que pour Aristote, il y a deux ordres qu'il faut tout le temps respecter. Un ordre génétique de l'imparfait vers le parfait. Il y a un ordre de perfection du parfait vers l'imparfait. Je crois ça capital. Un ordre de recherche va toujours de l'imparfait vers le parfait. Mais l'imparfait ne me fait jamais comprendre ce qui est parfait. Si vous regardez le petit embryon, le petit fœtus, c'est difficile en étudiant uniquement le petit embryon, de comprendre ce que sera l'homme quand il aura atteint la plénitude de son intelligence et de son cœur et de sa personne. Alors, c'est très important l'ordre génétique, surtout aujourd'hui, et s'il n'est pas le seul, il y a un autre ordre qu'il faut toujours se rappeler, c'est du parfait vers l'imparfait. Je vais regarder l'homme dans toute sa taille, arrivé 50 ans, 60 ans. Pour un Grec, c'était 45 ans. Et pour un Européen d'aujourd'hui, il y a un peu de retard. Alors, on pourrait dire, c'est vers 50 ou 60 ans. Tu as récivé plus tard que du temps d'Aristote. On regarde l'homme dans sa perfection pour comprendre tout l'aspect génétique. Je prends un autre exemple et vous allez tout de suite comprendre. Quand je transpose ça par rapport à la révélation, la première alliance commence de l'imparfait. Même si la foi d'Abraham est une foi qui, substantiellement, est la même que celle de Marie. Cependant, elle est moins parfaite. Elle a un mode encore très imparfait. Toute la première alliance, je vais de l'imparfait vers le parfait. Le sommet, c'est avec Marie, avec Jésus. Et à partir de là, il y a le développement. Et pour bien comprendre l'Ancien Testament, il est bon de le regarder dans la révélation du Nouveau Testament. Parce que tout s'achève. Prenez un exemple très simple. L'Apocalypse qu'on trouve chez Daniel, les récits apocalyptiques de Daniel et ceux de Jean. Il est évident que pour comprendre Daniel, l'Apocalypse de Jean nous aide beaucoup. Et je comprends parfaitement l'Apocalypse de Daniel comme servant de ce que dit Saint Jean dans son Apocalypse. Aujourd'hui, on est très, très porté vers l'ordre génétique. Et certains ne raisonnent que par l'ordre génétique, comme si l'imparfait déterminait le parfait. Nous disons en philosophie que l'imparfait conditionne, mais ne détermine pas. L'idée qui vante l'enfant conditionne l'homme à arriver à sa maturité, mais ne détermine pas. C'est bien évident. L'Ancien Testament conditionne, mais ne détermine pas. C'est l'Évangile, la parole du Christ qui détermine. Regardez ce que dit l'Épître aux Hébreux au point de départ. Quand il parle de la parole de Dieu, selon la première alliance et la parole de Dieu donnée par le Fils bien-aimé, c'est très net. Il y a donc toujours, et ça c'est très très pratique dans notre vie, c'est pas seulement en philosophie, c'est tout simplement notre vie, il y a un ordre génétique qui est très important, il ne faut surtout pas rester uniquement sur cet ordre génétique. Il faut tout regarder dans l'ordre de perfection. Il n'y a rien de plus agaçant que de juger un homme mûr à partir des colères de son enfance. Il a envie de dire, vous n'y comprenez rien. Et c'est vrai, il a raison de dire ça. Le conditionnement est intéressant et ne nous donne pas l'intelligence profonde. Alors, entrons dans le sujet. Qu'est-ce qu'il y a au point de départ de la philosophie première? L'interrogation. Qu'est-ce? Ce qu'il y a de premier? Qu'est-ce le premier de ce qui est en tant qu'il est? Une interrogation très précise. Quel est le premier, je précise encore, selon la forme de ce qui est en tant qu'il est? Et quand on dit selon la forme, c'est pour rappeler que la première distinction que l'intelligence philosophique fait à partir de l'analyse de l'œuvre d'art, qui est la réalité la plus proche de moi, c'est de distinguer la matière et la forme. La forme et la matière. On fait ça encore. Merveilleux pour le fond, lamentable pour la forme. Et quelquefois, quand on dit ça, le fond, c'est le plus important, c'est la matière. Et la forme, c'est le style. Alors qu'en réalité, La forme, c'est la détermination. Et la matière, c'est la réalité matérielle. On dira ceci, le cercle qui est réalisé dans les reins, le cercle des reins, le cercle qui est réalisé dans le bois, le cercle qui est réalisé dans la pierre, c'est toujours le cercle. Donc le cercle des reins, qu'est-ce qu'il est ? Il est un cercle dont la matière est les reins. Je distingue donc forme et matière. Et donc, cela est la distinction première de notre intelligence qui essaie d'analyser. Parce que la première chose que j'analyse, c'est ce que l'homme a fait. Ensuite, j'analyserai ce que l'homme n'a pas fait. L'homme. L'homme n'est pas fait entièrement par l'homme. Heureusement. Il est fait par l'homme et par Dieu, puisqu'il est l'image de Dieu. Même le philosophe peut le dire, plus difficilement que le croyant, il peut le dire, parce que l'esprit ne peut pas venir d'un autre homme. L'esprit ne peut venir que de Dieu. C'est par l'esprit que j'en monte jusqu'à Dieu, et non pas par le corps. C'est pour ça que quand je considère que le corps, dans la science biologique, je ne peux pas découvrir Dieu ou Terre, je pose l'interrogation. C'est si bien ordonné, quand vous regardez, dès le premier instant de la conception, jusqu'à la naissance, c'est si merveilleusement ordonné qu'il faut bien quelqu'un qui pense. Et ce n'est pas le père ni la mère, puisque c'est une mère pour le foyer d'à côté. C'est donc quelqu'un qui est antérieur au père et à la mère, et qui est un artiste, qui est un père capable de penser cette formation de l'homme. Vous voyez, ces découvertes modernes de la biologie devrait être pour nous tous un point de départ étonnant pour découvrir la sagesse de Dieu. Le propre du sage est ordonné. Qu'est-ce qui a ordonné ce premier moment de la conception jusqu'à la naissance ? Alors vous direz, ah oui, c'est très déterminé. Et qu'est-ce qui a déterminé ça ? Pas celui qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il a déterminé ? Il y a une détermination dans cet ordre. Alors voyez, il faut bien comprendre, quand je cherche le premier selon la forme, c'est pour découvrir la détermination fondamentale de ce qui est, de tout ce qui est, de toute réalité existante. Quelle est sa détermination fondamentale ? C'est la première question de la philosophie première. Une question capitale, puisqu'il s'agit de découvrir la source cachée de toutes les déterminations qui sont dans l'homme, qui sont dans l'être, qui sont dans la réalité que je vois, qui sont en moi. Pour nous préparer à cela, donc, selon l'ordre génétique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une petite enquête. Quelles sont les déterminations de l'homme que je vois auprès de moi, que je vois en moi ? Je vois que chacun d'entre nous, nous avons un nom. Pierre, Jacques, Jean. Adélaïde, Jacqueline, Judith, chacun d'entre nous en a un nom. Et ce nom désigne un individu particulier. Ce nom, nous l'avons reçu. On aurait pu très bien le choisir à l'âge de raison, ou un peu plus tard, quand j'étais dans l'état de perfection. Ce nom m'a été donné tout de suite, dès l'origine, pour montrer cet individu particulier qui est né, ce petit être unique au monde. C'est quand même très agréable de savoir que chacun d'entre nous, nous sommes uniques au monde. Personne, biologiquement parlant, n'est comme nous. On est un objet d'art unique. Il n'y a pas deux individus qui peuvent se dire complètement identiques. Oh, il y a des ressemblances de famille, oui. Et ça se voit surtout dans les défauts. Ça se voit tout de suite. Hein. Et ça dit, oh, le défaut du grand-père, oh là 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 là, quelle catastrophe. Nous l'avons tous connu. Et ça se répète. Et la qualité de la grand-mère. Ou alors ça, c'est beaucoup plus caché. C'est beaucoup plus caché. Et puis quelquefois, c'est le père et la mère. Et quelquefois, c'est un oncle dont on ne parle jamais. Parce qu'il était un peu un brigand. Dans toute famille, il y a des brigands et des fous. Mais on n'en parle pas. Ils sont enterrés vifs. On n'en parle pas. Et quand on retrouve une comparaison, oh là, attention. Vous savez combien c'est mystérieux. Les liens de l'atavisme et un individu, Pierre. Je dis Pierre, c'est un homme. Adélaïde, une femme. Je caractérise tout de suite Pierre selon un caractère qui pour moi est essentiel. Quand je dis homme, je veux dire qu'il est lié par son corps tous les êtres vivants. Et que cependant, il a quelque chose d'unique. Il est un homme, un animal raisonnable. Alors je dis homme. Les anciens disaient la nature. La nature homme. Qui est spécifique et absolument déterminée. Puis après, je regarde l'homme, cet individu, cet homme. Je dis cet homme, il est très intelligent. Ça ne se met pas sur sa carte de visite, ça. Mais tous les amis savent. Celui-là, il ne faut pas aller trop loin. Parce que dès qu'on va un peu loin, il ne suit plus. Il retombe dans le fossé. Donc il ne faut pas aller trop loin. Faire attention, peu intelligent. Puis il a d'autres qualités, où il a des yeux admirables. Jamais vu des yeux comme ça. Mais c'est vrai. Il y a des personnes qui ont des yeux admirables. Je t'ai déjà dit, première fois que j'étais en Grèce, avec un sculpteur, qui était de Genève, que j'aimais beaucoup. J'avais été dans une petite île, écartant du groupe, on était seul. Parce qu'on avait dit que c'était dans les îles qu'on découvrait le mieux le caractère grec des femmes et des hommes. Tout d'un coup, je reçois un coup de poing dans la poitrine. C'était mon sculpteur qui tombait en extase. Oh, regardez ses yeux! Ses yeux grecs! Alors il a regardé, il a j'étais en habit dominicain, c'était plus gênant pour moi. Il a regardé en extase, ça. Mais j'ai quand même regardé, puisque j'étais derrière lui. Des yeux. Et c'est vrai, je les vois encore, ces yeux. Parce que c'était très beau. Un nez. Ça, on est moins en extase. Ça peut arriver. Et bien sûr, un front étonnant. On voit très bien les qualités. Parmi les qualités, il y a ce que les anciens appelaient la figura, la physionomie d'un être. C'est une qualité. sensible. Puis, il y a toutes les qualités spirituelles, n'est-ce pas ? L'intelligence, la volonté, le cœur, l'imagination. Toutes les qualités, tout domaine des qualités, c'est énorme. Puis, il y a la quantité. Ça me dit moins sur la personne. Entre une personne qui pèse 105 kilos, ça ne me dit rien sur son intelligence. Celle-là, poids plume, 56 kilos. Finalement, peut-être que l'âme informe plus facilement quelqu'un de 56 kilos que quelqu'un de 110 kilos. Peut-être, j'en sais rien. Je crois pas. Je crois pas du tout. Parce que l'information est indivisible. Peu importe, la quantité indique quelque chose. C'est sûr. Puis après, il y a les relations. Tout ça, ce sont les déterminations. Les relations. Il y a des personnes qui ne se définissent que par leurs relations. On ne peut jamais savoir ce qu'elles sont. Mais ne cessent de parler des personnes qu'elles connaissent. C'est très bien, parce que si elles s'oublient, et si c'est simplement pour avoir de multiples miroirs, ça c'est différent. Parce qu'on a des miroirs merveilleux, on a des relations très élevées. Alors évidemment, ça nous met sur des autres, sur des échasses. Puis on a des relations avec les pauvres, ça aussi quelquefois. Ça fait partie d'un certain snobisme. Tous ceux qui vont coucher dehors, ce sont ceux-là nos amis, on les a mis à Noël, mais pas le lendemain. Le jour de Noël, enfin, bien réussi. Il y a des relations. Et c'est vrai, c'est typiquement quelqu'un, des relations. Mais il y a l'action et la passion. Il y a des gens qui font beaucoup de choses. Ils agitent beaucoup. Ils nagent en faisant beaucoup de bruit. Et beaucoup d'eau qui s'agite autour d'eux. Et ils entretiennent cela. L'action. C'est un rayonnement. Puis il y a des gens qui bâtissent. Qui bâtissent. La passion. Être réceptif. Bâtir. Il y a encore, puisque ça c'est le mouvement. Tout mouvement se divise en action et en passion. Au point de vue de cette détermination. Ensuite, vous avez le temps. Vous êtes né à telle date. C'est pas indifférent pour les historiens et pour n'importe qui. On vous demande toujours votre date de naissance. Tout le temps. On ne vous croit pas sur parole. Il faut encore qu'il y ait un papier qui certifie que ce que vous dites est vrai. Alors ce papier, il se fonde sur quoi ? Sur ce que vous avez dit. Et de temps en temps, c'est les ancêtres. Alors c'est très bien. Et à la commune, à la naissance, très bien. Date de naissance. Il y a le temps, le lieu. Aussi. Pas la même chose. Si on est dans le nord, ou si on est dans le sud. Pour tous les pays, c'est différent. Il y a un nord et un sud. Et ça se renverse de l'autre côté de l'atmosphère. Dérouté au début. Et puis, il y a un situs. Ah, ça, c'est beaucoup plus savant. Le situs. Très difficile à traduire. Est-ce que vous pouvez traduire situation ? Et c'est par rapport au tout. Dans une communauté, on a un situs. On est au premier rang. On est au dernier rang. On est au milieu. Ça soit très bien en avion, toi. Ça c'est sûr. On choisit son situs. Évidemment, si vous dites, mon situs, c'est celui-là. Je suis toujours au milieu de l'avion. Il n'y a plus de place. Vous êtes obligé d'en prendre l'autre. Le situs. Et puis il y a quelque chose encore beaucoup plus particulier. C'est ce qu'on appelle l'avoir. L'habitus. la foi. Chaque fois que vous usez de quelque chose, vous êtes transformé par cette chose. Oui, le vieux dicton, l'habit ne fait pas le moine. Je peux ajouter, la toilette ne fait pas la femme. Je généralise le communisme. Donc, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais ça fait quand même quelque chose. Demandez à une femme si sa toilette, elle est complètement différente. Si elle est sainte, peut-être, mais quand même, elle tient. Oui, tout ce qui nous appartient, tout ce dont on use, un ouvrier, un charpentier, il aime ses outils. Parce que ses outils ont marqué sa main, et sa main ont marqué les outils. Il y a une espèce de relation qui se fait entre l'habit et la personne qui le porte. Chose très curieuse, vous discernez dans une foule d'habits, votre habit, même avec d'autres tout à fait semblables. On est habitué à toucher son habit, et toucher son habit, ça fait qu'il y a un lien de communion. Avec les outils, c'est beaucoup plus fort, avec la pipe. Fumeur de pipe. Je me souviens, première chose que j'ai eue, oh, ça date déjà longtemps, ça. C'était un train qui partait vers la Bretagne. Alors vous voyez toutes ces femmes bretonnes, déjà un peu âgées, se tenir très bien. Puis dès que le train partait, elles avaient leur petit sac, et elles commençaient à prendre leur pipe. Première fois que j'ai vu ça, ça m'a beaucoup amusé, j'ai compris ce que c'était. Pour une Bretonne, c'est quelque chose d'un certain âge, vous voyez. Maintenant moins, parce que la Bretagne perd son caractère. Elle a perdu la pipe de sa vieille grand-mère. Elle a perdu son caractère, parce que sa pipe, c'était quelque chose. Les fumeurs de pipe, c'est quelque chose en pipe. C'est curieux, hein. Comme l'homme est attaché à une foule de choses. C'est son avoir. C'est son premier milieu. Un milieu très fort, des petits chiens, des petits chats, qu'on aime quelquefois beaucoup plus que des voisins ou des voisines. C'était la réaction d'un étudiant espagnol à Fribourg, un de mes étudiants, qui pendant les vacances se mettait garçon dans des hôtels de ski, dans des hôtels pour le ski. Des hôtels très bien, parce que là on se met plus. Le voici. Et leur retour, je les interrogeais toujours quand je pouvais. Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus? Alors un m'a dit une fois, ce qui m'a intéressé le plus, c'est de voir que les personnes qu'on croisait, qui descendaient à l'hôtel où on était, s'intéressaient plus à leurs petits chiens qu'aux garçons. Le garçon était là, au service. Le petit chien était favori. Ça, ça fait mal, vous savez, sentir ça. Alors il posait la question, est-ce que c'est pas une dégradation d'une culture? Est-ce que c'est pas le signe d'une certaine dégradation du cœur? On pourrait faire toute une philosophie à partir de là. Et c'est vrai. Vous voyez, il y a 10 dimensions que le philosophe Aristote a rassemblées en réfléchissant sur ces 10 modalités de l'être. Et j'ai l'expérience de ces 10 modalités de l'être. J'ai l'expérience de Pierre, et qui n'est qu'au monde. J'ai l'expérience de l'homme, quand je pense l'homme. Quand je pense l'esprit, quand je pense l'animal raisonnable, c'est quelque chose que je porte en moi. J'ai l'expérience de la quantité, surtout dans les trémaux, dans les métros à telle heure. C'est vrai, il y en a qui prennent beaucoup de place, il y en a qui en prennent très peu, et ces moments, ils en prennent encore moins. Alors c'est dans le domaine de la qualité que les expériences intérieures se développent énormément. L'expérience de la quantité, elle n'est pas directe. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai toutes ces expériences à l'égard de l'homme. Alors, est-ce que on peut établir un ordre dans ces 10 déterminations? C'est intéressant de se poser la question. Parce que ces 10 déterminations, je peux les expérimenter. On les appelle les 10 prédicaments. Les 10 modalités de l'être physique, concret. L'être physique, concret, se présente à moi selon ces 10 modifications, ces 10 modes de ce qui est. Est-ce qu'il y a un ordre? Oui, il y a un ordre. Parce que c'est pensé par Dieu, tout ça. Si je suis un croyant, si je suis un philosophe, je peux réfléchir à dire qu'il y a des terminations qui sont plus ou moins importantes. Il y en a deux capitales. Pierre, puisque tout repose là-dessus. Pierre. Il est le sujet de toutes les déterminations. D'une certaine façon, il est au-delà des 10 prédicaments, puisque tout est relatif à Pierre. Pierre reçoit toutes ces déterminations. Et j'ai l'expérience de Pierre. Ayant l'expérience de Pierre, je peux réfléchir à Pierre, dire Pierre est un homme. Et l'attribution, c'est pour ça qu'on appelle ça des catégories, des prédicaments. L'attribution principale que je fais à Pierre, c'est de dire il est homme. Il y a en lui l'esprit. Il y a en lui l'animal. Il a un corps, il a une âme spirituelle. Après, je mettrai tout de suite ses qualités spirituelles. Mais je ne peux pas négliger les qualités de son corps. Il est souple, il est agile, il a un très beau visage. Bon, ces qualités, c'est quand même très important. Et puis, à partir des qualités physiques, je dirais, il y a la quantité. Et la quantité, oui, grand, petit, ça joue quand même. Aristote disait qu'un bel homme demandait d'être une certaine dimension, une certaine grandeur. Si on est trop petit, on peut être mignon. Mais beau implique une certaine grandeur. Mais pas trop grand. Disait le vieux philosophe, fallait une harmonie. On voit très bien ça. La quantité est une qualité, est une détermination doublement relative. Elle est relative au sujet et elle est relative aux qualités physiques. Toutes les qualités physiques impliquent la quantité. Puis après, je crois qu'après, c'est tout de suite la relation. La relation, c'est quelque chose de très particulier. Puisque ce n'est plus moi, c'est moi face à l'autre. Alors là, je vois l'être qui devient comme relatif aux autres. Je suis quelquefois très non seulement conditionné, mais quelquefois très déterminé par l'autre qui est en face de moi. Pensez aux examens, aux oraux. Comme vous êtes déterminé par le regard du professeur, de l'examinateur, ou du pion. Très déterminé. Et plus vous êtes timide, plus vous êtes déterminé. Normalement, on est relatif à un autre, dans un certain secteur. La relation est quelque chose de très particulier. Elle me met vers l'autre. Vers l'autre. C'est le face-à-face. C'est l'être, mon être, qui s'étend vers un autre. Vous voyez, quand cette relation est parfaite, je suis en face d'une relation qui se fonde sur l'amour. Et c'est l'amitié. L'amitié, c'est une relation d'une qualité unique, d'une valeur unique. Parce que grâce à l'amitié, l'autre, je le découvre dans ce qu'il a de plus. Je me découvre à lui. Donc c'est une relation qui me permet d'aller beaucoup plus loin. D'une certaine manière, tout ce que mon ami acquiert comme expérience, par ricochet, je l'ai. C'est ça que c'est un autre. L'amour d'amitié est un autre moi-même. Je ne m'identifie pas à l'ami. S'identifier à son ami, c'est très grave. C'est justement d'être absorbé par lui. Alors on perd son identité. On perd son caractère propre. Mais je peux avoir des amitiés qui sont complémentaires. Alors il n'y a pas de danger là d'identification. Je peux avoir des amitiés de similitude. Ça joue un rôle très grand dans ma vie. Et cependant, c'est quelque chose qui est extérieur à moi, qui n'est pas moi, au sens profond. C'est moi relatif à un autre. C'est moi qui tend la main à un autre. C'est moi qui regarde l'autre. Comme c'est curieux la relation. Et ordinairement, quand on n'a plus beaucoup de vie intérieure, on s'étend dans de multiples relations. Quand on a une vie très intérieure, on garde les relations les plus qualitatives, les plus vraies. C'est un fait. La question du temps, la question du lieu, je comprends très bien, c'est extérieur à moi. C'est très extérieur à moi d'être né dans ce siècle. Je crois. Ça a une influence parce qu'il y a eu cette culture particulière à partir de telle date. Le lieu, c'est un peu la même chose. Peut-être plus profond. On est dans tel pays. Et on a vécu dans tel pays. C'est évident que être né dans l'Inde, être né en Asie, être né en Europe et dans l'Europe, il y a beaucoup de lieux. Être né en Australie, ça a une influence. Ça ne détermine pas ma recherche de vérité. Ah, ça c'est curieux. Ça l'influence. Ça la dispose. Parce que être né dans tel lieu a permis telle relation. Être né à telle date a permis telle rencontre. Et là, la relation a joué. Nos relations sont toujours dépendantes, nos relations humaines sont toujours dépendantes de temps et de. Alors là, on voit très bien Le situs, c'est un peu la même chose par rapport au tout. C'est par rapport à la paroisse. Le curé d'une paroisse est très sensible. Si vous jouez un rôle d'être pleinement intégré dans sa paroisse, quand il sent que tous les dimanches, votre auto part pour une autre paroisse, ça lui crève le cœur. Pas seulement à cause de la quête, mais ça lui crève le cœur. Parce qu'il voit quelqu'un partir. C'est le situs, ça. Je vous donne l'exemple concret. Parce que la paroisse, c'est le milieu le plus proche au plan religieux. Et si vous optez pour une autre, il y a des raisons. Des raisons. Vous aimez mieux. La prédication et vous fait du bien. Ou la messe est bien dite, vous aimez mieux chanter. Ou il y a tel ami que vous rencontrerez là. Et c'est le seul moment où vous pouvez le rencontrer. Il situs. Et l'habitude, c'est l'avoir. Alors, plus une société est capitaliste, plus l'avoir prend d'importance. La relation à la banque, si la banque fait faillite, très ennuyeux. C'est quand même quelque chose, cette relation, cet avoir, mon avoir. J'ai plusieurs maisons, à droite et à gauche. C'est un peu de moi-même là-dedans. L'avoir. Et tout d'un coup, la pauvreté. La pauvreté. Ça vous dépouille complètement de toute cette question d'avoir. Pour ouvrir votre cœur à autre chose. Parce que l'avoir, quelquefois, vous encombre. Vous nous. Vous empêche d'aller plus loin. C'est très intéressant de décrire ces 10 prédicaments. Très intéressant. Et voyez, dans ces 10 prédicaments, le vieux philosophe n'a pas eu besoin de dire est-ce que dans ces prédicaments, il faut distinguer l'homme et la femme ? Non. Ce sont les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on les regarde par rapport à l'être. Si j'ai regardé pour eux-mêmes, je verrai que peut-être certains prédicaments sont plus développés chez la femme que chez l'homme. C'est sûr que les pipes sont plus développées chez les hommes que chez les femmes, tu vois. C'est vrai. Et il y a comme ça certains instruments plus développés chez les uns et chez les autres. Et les qualités aussi, et la physionomie également, et la beauté du corps également. C'est quand même très curieux qu'au fond, il n'y a pas 10 prédicaments pour l'homme et 10 prédicaments pour la femme. Non. Et vous mettrez des modalités différentes. Alors, est-ce que ces 10 prédicaments que j'ordonne, le premier, c'est l'homme. Puis-je ordonner les autres ? Tous. Et tous exprime quelque chose de l'être. C'est pour ça que le vieux philosophe Aristote dit que l'être est dit de multiples façons. Il est dit de 10 façons. La qualité, c'est de l'être. La quantité, c'est de l'être. La relation, c'est un être. Mais Aristote ajoute tout de suite l'être le plus débile. La relation. Pourquoi ? Parce que c'est un être qui a toujours besoin de l'autre pour exister. Vous êtes semblable à un autre. L'autre vient disparaître. La similitude que vous aviez avec lui disparaît. Sans tambour ni trompette. Vous n'en êtes même pas aperçu. On vous dit, il est parti, il est mort. Cette relation disparaît. C'est l'être le plus débile, la relation. Et pourtant, ça joue un rôle si important. Et certaines philosophies, Hamelin, sont des philosophies entièrement basées sur la relation. Je peux dire que homme exprime quelque chose de très fondamental dans l'ordre de l'être. Ce n'est cependant pas l'être. Puisqu'il peut peut y avoir des réalités existantes qui ne sont pas l'homme. L'homme n'est pas l'être premier. L'homme n'est pas l'être tout court, puisque à côté de lui, il y a un petit animal, un petit singe, un petit chien, un petit chat. Et certaines personnes voyagent toujours avec leur petit chien, leur petit chat. Comme ça, on voit bien qu'ils ne sont pas l'être tout court. À côté d'eux, il y a un petit chien, un petit chat. Ils mettent la comparaison comme ça. Je ne suis pas mon petit chien, je ne suis pas mon petit chat, mais je les dépasse, je les domine. La substance, elle se manifeste à travers la quantité, de façon très extraordinaire. Substance matérielle, d'une certaine manière. C'est le divisible à cause de la matière. La quantité, c'est le divisible. C'est l'être matériel qui est divisible parce que en lui-même, il est très en puissance. La substance, elle se manifeste à moi à travers l'esprit, l'intelligence. Mon intelligence n'est pas substantielle, mais mon intelligence manifeste mon esprit. Ma capacité d'aimer, ma volonté, manifeste que l'être, il est amour. L'être n'est pas étranger à l'amour, puisque ma volonté est une qualité de mon être. Alors, comprenons bien, la recherche de l'être en tant qu'être, c'est aussi la recherche de l'amour. Alors là, ça donne une autre physionomie à la philosophie première. Et nous verrons ça, que la recherche de l'être de l'être en tant qu'être me permet de comprendre ce que c'est que l'amour dans ce qu'il y a de plus fort, de plus profond. Il y a aussi, et je dois le reconnaître, toutes les qualités sont comme des diamants merveilleux de l'être, de ce qui est. Mais il y a encore la physionomie, c'est la substance qui se manifeste à travers la quantité, la figure, la physionomie d'un être. Voyez, tous les prédicaments, si je les regarde profondément, au plan métaphysique, me manifestent une source cachée que nous essaierons de dévoiler la fois prochaine. Au-delà des prédicaments, découvrir cette source. Et cette source, pour moi, c'est mon âme. C'est l'intérêt de chercher la substance. Ça nous aidera à mieux comprendre l'âme. Et mon âme m'aide à mieux comprendre la substance. Vous voyez que là, je touche quelque chose de très important.